Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous explorons une énigme. Celle d'un artiste qui, dans le contexte économique florissant de la Belgique de la fin du XIXe siècle, alors que les ressources du Congo belge, peut-être, et l'élan de la révolution industrielle peuvent détruire, peut-être, une partie des traditions pastorales et chrétiennes, mais qui, par ailleurs, alimente l'essor de la bourgeoisie et l'expansion des villes. L'énigme d'un artiste, donc, qui choisit la voie du refus, préférant le retrait à l'action, s'écartant des images du monde moderne que produisent pourtant à ce moment-là les post-impressionnistes, les peintres réalistes jusqu'aux futuristes, ce sont ses contemporains, Fernand Knopf, entre 1880 et 1921, crée une œuvre exigeante, déconstruisant par l'idéal et le songe les assauts impérieux d'une réalité qu'il a décidé de fuir. On le dit symboliste et sans nul doute c'est vrai. Il appartient à ce climat nostalgique qui fait résonner dans ses chefs-d'œuvre la trace des dieux enfuis. Fernand Knopf donc, à l'occasion de l'exposition qui le célèbre au Petit Palais, intitulée « Fernand Knopf, le maître de l'énigme ».
Fernand Knopf, un entêté, un artiste. Oui, plus encore qu'un artiste, et Dieu sait combien il l'est, un entêté. Ce n'est un défaut que pour les imbéciles. Aussi fais-je l'éloge de Fernand Knopf en le qualifiant tel, lui, le serré, le froid, le fermé, le britannique, qui réfléchit plus qu'il ne parle, qui observe plus qu'il n'explique. Certes, il est trop poli pour afficher que son plus entier bonheur serait de n'être interrogé ni distrait par personne. Toutefois, il ne cause que pour ne point désobliger, il ne rit que pour ne point fâcher, il ne se mêle aux discussions, toujours inutiles, que pour n'en point paraître dédaigneux. S'il le voulait, il serait un causeur sarcastique et subtil. Néanmoins, si nul ne l'attaque, son désir de faire parade d'esprit ne va point jusqu'à trancher n'importe quoi. Il passe inaperçu et les dames doivent le trouver quelconque. Et pourtant, quelle physionomie curieuse au repos aussi bien qu'en mouvement. Deux petits yeux métalliques très aigus, le menton légèrement effilé, une bouche méprisante et une chevelure, la belle chevelure rousse et barbare, virgulant des boucles sur le front et réalisant je ne sais quel couronnement farouche. Attitude raide, tenue correcte, très simple. Horreur de tout débrailler, clergyman en train de devenir dandy. Si Fernand Knopf est peu expansif, combien ne doit-il pas, dans le seul à seul de l'étude, discuter avec lui-même ? Que de luttes et de tensions d'esprit en face de l'œuvre, le matin, le jour, le soir, la nuit, toujours. Oui, la nuit, quand l'idée s'ébauche et qu'il faut la saisir et, sautant du lit, la clouer sur le papier ou sur la toile. Le lendemain, ce frêle tremblement d'étoile, on ne le verrait plus. Ce que veut Fernand Knopf, il le veut aussi immuablement qu'il est possible de vouloir. Mais il a la volonté muette. Y en a-t-il d'autres ? Il avance lentement en ce qu'il projette. Et mystérieusement, il ne lâche jamais une résolution. Il n'atténue jamais un oui ni un non. Il ne sait pas ce qu'est douter. décider, c'est accomplir. Si donc on cherche l'unité qui scellera cette étude, la voici. L'art de Fernand Knopf est plus encore basé sur une force morale que sur une faculté intellectuelle. La volonté le pénètre, le vivifie, l'épanouit. Elle ne crée pas le peintre, ce qui serait impossible, mais elle le dessine tel qu'il apparaît, non pas de profil, ni en buste, mais en pied. Quand on est égoïste, solitaire et obstiné comme lui, l'art qu'on fait doit être logiquement un art de patience, de précision et de raisonnement. C'est le sien. Telle prémisse, telle conclusion. Fernand Knopf ne bouge presque ni ne s'emballe. Minutieux, à petits coups brefs, avec une lenteur à peine inquiète, sa pointe, brosse ou crayon, griffe le panneau ou le papier. Mais son regard est aigu à l'extrême. On sent un vouloir cruel, on y surprend toute une observation tendue vers les choses, implacable et incessante. La main ne fait aucun mouvement que n'ait déterminé et contrôlé la pensée. Elle n'hésite point. Toutefois, elle n'a aucun entrain, aucune folie. Elle est d'une réserve et d'une prudence nette. Point de belle liberté de dessin, point de facture forte et caractérisante, mais des traits minces, sévères, décisifs, presque de l'écriture. Est-il besoin d'ajouter que tout minutieux que soit le fer de Fernand Knopf, il n'est en rien semblable aux lècheries et aux pointillés et aux marqueteries de pantoufles des peintresses et des imagiers. S'il rappelle quelqu'un, c'est les grands gothiques. Émile Verhaeren, 1881-1887.
C'est donc un portrait de Fernand Knopf et je suis avec le directeur des musées des Royaux des Beaux-Arts de Belgique, mais surtout avec le commissaire de l'exposition Knopf au Petit Palais. Fernand Knopf, le maître de l'énigme, et vous aviez trouvé, Michel Draguet, un très beau titre pour votre livre, celui que vous avez fait il y a quelques années. Qu'est-ce que c'était ?
C'était Knopf ou l'ambigu poétique.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'ambigu poétique ?
Le texte qui a été lu est un texte en fait de Verhaeren, que Verhaeren rédige au fur et à mesure qu'il fait des articles d'exposition, et donc il parle dès les premières œuvres de Knopf. Et il décrit Knopf, c'est d'ailleurs très amusant, Knopf reprend dans sa propre correspondance quand il se décrit, le texte exact de Verhaeren, il retranche juste une phrase, c'est « les femmes ne le remarquent pas ». Ça, il n'a pas trop apprécié, donc il l'a supprimé. Et Verhaeren va écrire sur Knopf, il va donner des comptes rendus de ses tableaux. Il y a une série d'articles qui paraissent en 1886 dans l'art moderne, et puis cet article s'arrête à un moment donné. Verhaeren vient à Paris, il découvre la Grande Jatte de Seurat et l'œuvre de Seurat. Et lorsqu'il revient à Bruxelles, il rédige le dernier article sur Knopf qui va devenir une définition du symbolisme, mais qui colle aussi bien à Seurat qu'à Knopf. Et donc, à partir de cet élément-là, il y a une sorte de divergence entre le positivisme scientifique de Seurat, qui est ancré dans le réel, dans un réel scientifique, et une réflexion qu'on peut qualifier de métaphysique chez Knopf, qui part tout autant du réel, mais dans une formule qui est une formule poétique. Et en retravaillant, parce que à titre personnel, ce que j'aime dans le sujet, c'est que j'ai écrit ce livre quand j'étais un peu plus jeune, en 94. Je l'ai repris un peu plus de 25 ans plus tard. Je l'ai laissé de côté. J'en ai écrit un nouveau. Ouais. Et j'espère, dans 25 ans, en écrire un dernier. Parce que je pense que le sujet a évolué au fur et à mesure qu'on évolue. Et à l'époque, dans l'ambigu poétique, c'était cette idée de l'irrégularité propre à tout le langage poétique. Et je sentais à l'époque que le lien avec Mallarmé devait être important. Je l'ai beaucoup creusé en travaillant sur Magritte notamment aussi, et je me suis rendu compte, Mallarmé est le poète préféré de Knopf, à quel point Mallarmé est le poète le plus important pour Knopf, mais qu'en même temps Mallarmé c'est une philosophie de l'image, une philosophie presque sonore de l'image, et donc ce terme d'ambigu poétique fonctionne toujours très très bien, le poétique donnant une forme d'irrégularité au réel, débouche sur une une véritable ambiguïté. Et cette ambiguïté, c'est l'énigme, c'est le titre qu'a choisi le Petit Palais. On aurait pu prendre le mystère, et le mystère aurait eu le mérite de renvoyer aussi à Magritte, qui est aussi un de ces surréalistes qui a travaillé sans cesse sur cette notion de mystère.
Vous avez aussi écrit un livre sur Magritte, vous êtes aussi directeur parmi les musées dont vous occupez, il y a aussi le musée Magritte à Bruxelles, donc il y a une correspondance assez forte et même une influence, peut-on dire, de Knopf sur Magritte.
Tout à fait. Magritte n'avait pas beaucoup d'estime pour les peintres symbolistes, et toute la génération de Magritte les ont pas vraiment aimés. Ils étaient réactionnaires, traditionnalistes, très catholiques, enfin très conservateurs. Par contre, il y a chez Magritte et chez Xavier Mellery, qui a été le professeur de Knopf, il y a chez Knopf et chez Xavier Mellery quelque chose qui touche à l'interrogation permanente sur le réel, qui a beaucoup plu à Magritte. Et contrairement à Everard, quand il dit que Knopf ne doute pas, je pense que c'est dans son attitude. Il a un port très altier, c'est un aristocrate, c'est un homme installé. Mais par contre, dans son œuvre est pétrie de doutes. Et le premier doute qui apparaît chez lui, c'est ce rapport à la photographie, qui est probablement un des éléments les plus modernes dans l'œuvre de Knopf. La photographie lui permet de douter du réel, puisqu'on en a une image fixe.
Alors, c'est vrai que on va revenir sur cette question de la photographie qui est fondamentale et qui est peut-être un des aspects très passionnants de l'exposition que vous avez faite. Mais peut-être revenons sur cette question du rapport entre Knopf, Mallarmé et les poètes symbolistes, peut-on dire. C'est-à-dire que le réel, c'est la résonance du réel et pas la signification de ce qui est décrit sur la toile qui va compter. Chez Mallarmé, il y a probablement une énorme crise qui le conduit de la foi à un culte du néant ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a la sensation qu'il y a une religiosité, mais que c'est une religiosité qui n'est pas liée au divin dans l'œuvre de Knopf ? Qu'est-ce qu'il célèbre ? Est-ce que c'est un culte de l'art, par exemple ?
C'est une vaste question. Alors, pour revenir à Mallarmé, je pense que des phrases comme celle de Mallarmé, où je dis fleur, et en l'absence de tout calissu, se lève l'absence de tout bouquet. C'est exactement ce qui se trouve chez Knopf. Il va peindre une fleur, mais cette fleur n'est jamais simplement réduite à son tracé nominal. Cette fleur est toujours l'évocation d'une expérience vécue qui renvoie vers le passé. Memories, le retour vers le passé. Et en réactivant ce passé, on donne au présent à la fois une sorte d'indétermination et une force qui définit ce que va être l'avenir. Et je crois que son culte et ce passage, cette religiosité, vous avez très joliment dit ça au début, c'est vers des dieux enfouis. Alors, comme je sais que nous sommes dans une période freudienne, l'avantage du enfoui, lorsqu'il est dit, c'est à la fois la fuite et l'enfouissement, ce qui est aussi très psychanalytique, archéologique. Il y a un goût pour l'antique chez Knopf et pour l'archéologie. Et c'est une sorte de savoir ancestral qui s'est perdu, qui nous laisse orphelins et qui nous oblige à construire quelque chose pour l'avenir. Everard a raison, c'est une œuvre extrêmement morale à ce niveau-là.
Alors, donc Knopf commence à travailler vers 1880, il vient d'une famille de haut niveau, si je puis dire, qui a vécu d'abord à Bruges, une capitale qui a un sens symbolique très fort pour la Belgique, mais aussi pour les poètes. Il s'entoure de poètes, il étudie la peinture, il se perfectionne. Comment est-ce que ça commence, sa carrière ?
Alors, sa carrière commence... Donc, il a un petit frère qui s'appelle Georges, qui est une sorte d'agitateur d'art. Il n'a pas laissé une œuvre impérissable parce qu'il a été, à juste titre, qualifié de plagiaire, tant dans le monde musical que dans le monde poétique, ce qui est quand même une combinaison...
Plagiaire de Verlaine, pour le...
Plagiaire de Verlaine, notamment. Et alors, il est plagiaire, mais pas avec l'humour des surréalistes qui font des pastiches en mettant simplement des guillemets. Il est véritablement... Il a un défaut d'inspiration et il pense que récupérer l'inspiration des autres est une bonne manière de progresser. Ça a un intérêt pour Fernand, qui lui est beaucoup plus introverti et qui, grâce à Georges Knopf, va se lier naturellement à ce monde poétique d'abord belge, notamment Vrard, qui passe souvent des vacances avec eux à Fossé, qui est un petit village dans les Ardennes que Knopf va peindre. Et c'est d'ailleurs très étonnant de la manière dont il le peint. Et par ce biais-là, il va rentrer en contact de toute cette bohème littéraire de la revue L'Art moderne, de la revue de la Jeune Belgique. Et la littérature va être sa première nourriture. Il va s'essayer un peu comme Degas à des poèmes un peu lourds, manipulant trop lourdement le concept. C'est pas vraiment son mode d'expression. Mais il semble que pour Knopf, peindre un tableau, c'est d'abord rédiger un texte. On les a perdus, ils n'ont pas survécu, à l'exception d'un qui s'appelle Le Sommet. Et c'est assez fascinant, parce qu'il va faire exactement la même chose avec les écrivains. Il les lit, et puis il réalise une œuvre qui n'est jamais une illustration. C'est d'après Flaubert, La Tentation de saint Antoine, d'après Rodenbach, d'après Grégoire Leroy. Ce n'est jamais une illustration au sens strict du terme. C'est quelque chose qui est plutôt de « je m'empare d'un univers intérieur et je le reproduis de la façon dont je le vis, dont je le ressens, de manière très sensible ». Et il va se former à l'académie. C'est un élève docile. Il est mûr pour le système académique. C'est pas James Ensor. Il est mûr pour le système académique, mais surtout c'est en venant à Paris en 1878 où il va découvrir l'œuvre de Gustave Moreau et l'œuvre de Burne-Jones, qui vont être deux constantes, surtout Burne-Jones et les Pré-Raphaélites, puisque Knopf va se tourner davantage vers le monde anglais que vers le monde français à partir des années 1890.
Et il aura donc, on parlait de l'influence de son œuvre tout à l'heure sur Magritte, mais une des personnes peut-être qui aura le plus ressenti son influence, mais c'est vers les années, au milieu des années 90, c'est Klimt.
Oui. Knopf devient une véritable star internationale comme Leighton en Angleterre au milieu des années 1890 et les mouvements sécessionnistes qui démarrent avec Munich qui ensuite passent à Vienne vont faire de lui véritablement une vedette internationale, un artiste qui va jouir d'une reconnaissance énorme. Et en 1898, les paysages et les portraits de Knopf vont avoir un impact considérable. C'est presque l'amorce de l'œuvre de Klimt qui ensuite va suivre sa propre voie très personnelle. C'est très différent d'ailleurs dans l'exposition. On compare l'érotisme des nus de Knopf à l'érotisme des nus de Klimt. Chez Klimt, tout tient dans la ligne et dans une sorte de dérive onirique vers l'ornement. Chez Knopf, tout tient dans le grain de la peau. C'est un homme qui caresse les femmes et qui n'en trace pas la ligne.
Ce que vous venez de dire est quelque chose de très très notable, je pense, dans les pastels en particulier. On a l'impression qu'il y a un granulé sur l'image qui déborde très largement le corps, mais que toute l'image devient grainée comme une peau, en fait.
Tout à fait, c'est le côté vivant. Alors ça, c'est un aspect, de nouveau, en évoluant soi-même, on regarde les œuvres autrement. Et l'articulation que j'avais suivie en 1994, je ne l'ai plus suivie maintenant. Et il y a clairement un changement dans la vie de Knopf lorsque sa mère décède
en 1906. Ouais.
Et là, il y a une ouverture vers la chair, vers la femme, vers l'altérité, qui va se développer chez lui, parallèlement à une sorte de refroidissement dans une religiosité toujours un peu borderline, toujours un peu à la limite. C'est pas un catholique pur, dur, pratiquant romain. Il aime bien les Swedenborgiens, il aime bien des choses qui relèvent un peu de la secte, façon Péladan. C'est-à-dire une pensée pour initier, qui est un peu à la distance des mouvements de masse.
Alors effectivement, par exemple, l'un de ses amis, Edmond Louis de Taille, disait ceci du symbolisme de Knopf. Écoutons-le.
Ni religieux, ni chrétien, ni mythologique, mais plutôt emblématique. Sa lecture est souvent énigmatique, voire impossible, mais une exquise délicatesse de composition, une grande séduction de style et une évidente subtilité intellectuelle corrigent toujours cette faiblesse. Edmond Louis de Taille, 1898.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Je suis avec le commissaire de l'exposition Knopf, Michel Draguet, auteur, directeur des musées royaux de Bruxelles, pour parler effectivement de ce grand artiste symboliste Knopf, qui a une personnalité unique et probablement, Michel, très, très influente. À votre avis, c'est une des figures majeures du symbolisme ?
Oui, au niveau européen, il y a des artistes comme évidemment Gustave Moreau et puis Vite Chavannes, il y a Klimt chez les Viennois, von Stuck, Böcklin, Vroubel en Russie que l'on connaît trop peu aujourd'hui, et certainement Knopf, qui est plus proche évidemment de Rossetti et de Burne-Jones, mais qui est véritablement un artiste qui est aux confluences. Alors ça c'est au niveau international, mais au niveau belge, il est un passeur, je sais que c'est un terme que vous aimez bien, il est aussi un passeur entre la tradition des primitifs flamands qu'on redécouvre à l'époque, et ce qui va suivre, notamment des artistes comme René Magritte, et au-delà, Marcel Brotars, par ce rapport au poétique. Donc Knopf est vraiment un jalon, il est un jalon dans la carte géographique du symbolisme, et aussi dans l'inconscient collectif belge qui part des états bourguignons et qui va remonter jusqu'à une actualité que Knopf a d'ailleurs connue. 1902, c'est la grande exposition de redécouverte des primitifs flamands. C'est une machine idéologique. On a banni de ce genre d'exposition des artistes comme Van Orley, qui auraient été influencés par l'art italien et que l'on juge à l'époque comme traître à sa race. Et Knopf va assister à cette exposition, parce que c'est un événement important et il en est un des acteurs, mais en refusant de voir la ville de Bruges, qui était la ville de son enfance, il va s'enfermer dans un fiacre, mettre des lunettes noires, tirer les stores, et ne rien voir de Bruges, qu'il ne revoit qu'à travers les photographies, qui sont celles aujourd'hui qui sont dans les archives violées, et qui ont servi, et je pense pouvoir faire la démonstration que c'est Knopf qui a mis les photos dans le livre de Rodenbach, parce qu'il les avait déjà lui-même utilisées pour son œuvre.
Le livre de Rodenbach, c'est Bruges la morte, qui est un des livres essentiel du symbolisme, en fait.
C'est le roman symboliste et l'invention du roman photo que Rodenbach n'a d'ailleurs jamais revendiqué puisqu'il n'est intéressé, lui, que par le texte. On a mis les photos dedans parce que Flammarion estimait que c'était trop maigre comme plaquette pour en faire un roman. Et donc, on l'a gonflé d'images, mais les images jouent un rôle, comme ces illustrations dont je parlais tout à l'heure, c'est avec George Rodenbach, Bruges la morte, une ville abandonnée, et ce thème qui va être un thème considérable pour Knopf.
Alors, c'est une alliance entre un poète, un écrivain et un grand artiste. Vous parliez tout à l'heure des lunettes noires de Knopf. Il y a un refus du monde réel. Qu'est-ce que signifie ce refus du monde réel? Et quand vous parlez de Burne Jones, par exemple, c'est aussi le même refus du monde réel, non? Est-ce qu'il n'y a pas une... Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je dirais pas le refus du monde réel. Il y a des aspects de Knopf qui sont assez intrigants. Il a soutenu les suffragettes. Il a soutenu la cause féminine, alors qu'on le présente aussi comme un artiste misogyne. Donc, il y a une acceptation du réel, mais le réel est soumis à un principe de justice dans ce contexte-là. Par contre, la réalité, au sens où nous l'entendons, il n'est pas très éloigné finalement de Monet. C'est une réalité qui passe toujours par le sujet. Il va dans les Ardennes et il réalise des paysages. Mais ces paysages, quand vous regardez les vues de fossé, ce sont ou bien des vues qui sont prises depuis des terres qui appartiennent au Knopf, ou bien des maisons qui appartiennent au Knopf, ou bien des terrains qui appartiennent au Knopf. En fait, c'est une géométrie, une géographie
toujours
personnelle.
Mais Michel, pardon, mais il y a dans ces vues de paysages, donc ce sont des paysages extraordinairement calmes, en général avec des horizons gris, des temps intermédiaires, il n'y a pas de nuages parce qu'il n'y a pas d'événements dans le ciel, tout est figé, et il y a des silhouettes qui passent, qui n'ont pas d'ombre, et vous dites très joliment que c'est comme des figures qui apparaîtraient sur un verre soufflé, quelque chose comme cela.
Ça, sur un souffle sur une vitre, c'est une expression qui définissait les œuvres de Whistler, que Knopf a repris à son compte. Whistler a été très important pour lui. Et effectivement, ce temps est suspendu, mais c'est un rapport au réel. C'est toujours un réel qui est ramené à soi. Et c'est ce qui fait, par exemple, l'idée de l'exposition... c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu de la chance. Alors j'étais en phase des épreuves quand j'ai découvert ce document aux Archives Générales du Royaume grâce aux archivistes qui y travaillent. C'est en fait le contrat de mariage de Knopf. Il y a une description complète de sa maison. Et cette description complète de sa maison montre en fait que cette maison étonnante, hein, par laquelle on ouvre l'exposition, est en fait la construction même de l'œuvre.
Alors, tout simplement pour que nos auditeurs comprennent bien, on se précipite d'un sujet à l'autre, évidemment, parce qu'il y a tellement de choses à dire. En 1902, Knopf crée sa maison avec un architecte, mais il en est l'inventeur dans tous
Totalement.
Les détails, et ça devient son œuvre d'art total, en quelque sorte.
L'écrin de son œuvre. Et en même temps, une manière dont toute l'œuvre se réarticule, en fait c'est le premier musée Knopf, se réarticule dans une forme de progression dans laquelle on retrouve des choses, un pan blanc, une tortue coulée dans le bronze, un tapis de lalique, des plâtres comme la tête d'Hypnose du Skopas du British Museum, qui est un thème qui va revenir dans toute son œuvre.
Parce qu'effectivement, Hypnose est peut-être l'un des grands sujets de son travail.
C'est le sujet. Même les fleurs, quand il parle des fleurs de rêve, ce sont les fleurs qui se trouvent devant la caverne d'Hypnose. Et il construit en fait un circuit, un processus initiatique qui conduit à un atelier de parade dans lequel toute l'œuvre est déployée. Et cette construction, c'est une manière en fait de transformer l'œuvre en un gigantesque texte. Donc son rapport au réel, il existe. Bruges, à travers la photographie, Fossé, à travers les vacances qu'il y passe. Il n'y a jamais de soleil, il ne fait jamais beau, c'est toujours brumeux, c'est un souffle sur une vitre. Et en même temps, c'est une réalité qui est ramenée à soi, comme si soi était la clôture du monde.
Et d'ailleurs, son ex-libris dit quelque chose comme ça, non?
On n'a que soi.
On n'a que
soi. Et l'autre, c'est Mii.
Et Mii, c'est moi.
Moi.
C'est moi. Et d'ailleurs, curieusement, j'ai vu que il y avait un musée des ex-libris à Saint-Mihiel, qui vient de Mii, hein, qui est le Saint-Soi. C'est très étrange.
J'espère qu'ils ont le frontispice, l'ex-libris de Knopf.
Oui, oui. Donc, il fait son monde absolument parfait. Ces tableaux avec des personnages, ces tableaux avec des scènes et des objets, des accessoires, ce sont des énigmes, c'est chiffré, on peut parvenir à une élucidation ou au contraire, c'est un sens qui flotte au loin.
Alors, ce qui est très intéressant dans un parcours biographique, c'est que bien souvent, les choses sont plus explicites dans la jeunesse que dans la maturité. Quand Knopf réalise, par exemple, un hortensia en 1884...
Alors, vous pouvez nous le décrire, c'est un très beau tableau.
C'est une scène d'intérieur. Les murs sont d'un bleu gris à la Whistler. Il y a à l'arrière-plan, dans l'entrebâillement d'une porte, une femme, elle aussi en gris bleu, absorbée par la lecture de son livre. Et au premier plan, il y a une table dont bizarrement le centre de table retombe comme une muraille et Knopf a incisé sa signature. Et sur cette table est posé un pot avec un hortensia bleu, occupé à se faner. On sent qu'il n'a pas eu suffisamment d'eau, il n'a pas été suffisamment alimenté. Et entre cet hortensia et la femme, il y a un bouton de rose qui est coupé et qui est posé sur la nappe. Alors évidemment, le tableau a des imperfections. L'entrebâillement de la porte est beaucoup plus large que la taille de la porte. Donc, pourquoi a-t-il fait ça? Simplement pour faire sa mise en scène. Et sa mise en scène est en fait une codification du langage des fleurs de Kate Greenaway. Le bleu étant une couleur de froidure, et Knopf exprime à travers l'hortensia bleu son amour pour la femme, qui n'est pas alimentée par la femme qui est totalement indifférente, elle a la même couleur que l'hortensia, et donc lui-même exprime son dépit. Knopf en allemand, ça veut dire bouton, et donc il a coupé le bouton de rose qui est déposé sur la table, et c'est un tableau chiffré. Il y a beaucoup de tableaux chiffrés. Quand il fait le portrait de sa mère, c'est en écoutant du Schumann.
Qui est un tableau de la même année, on est en 83, c'est la même période, 1883. Oui. C'est un tableau extraordinaire, parce que là aussi, faut se rendre compte comment, sans montrer un visage, on arrive à montrer exactement une émotion.
Tout à fait. Alors ce qui est très très amusant, c'est que ce tableau est trouble. Il est dans Tremblay, comme les photographies
comme
si c'était bougé. Et on sent, vous exprimiez ça en parlant de la peau pour le pastel, et on sent une sorte de porosité de l'espace à la sonorité musicale. C'est un portrait moral de sa mère, en fait, qui est assise.
Décrivez-nous la scène, oui.
La femme est assise, elle est habillée de noir, et elle a la main posée devant le visage, qui fait qu'on ne la voit pas. On ne voit pas son visage, et la main est le seul détail net du tableau. Tout le reste est Tremblay. Et tout le reste est dans des tons roux, gris, ocre. Et pour rendre quand même la scène explicite, ce qu'il n'aurait jamais fait 20 ans plus tard, à l'extrême gauche, il y a probablement la main de George Knopf jouant au piano pour qu'on comprenne qu'il y a de la musique. Il l'aurait rendu moins explicite, ce qui est très amusant.
Et puis il y a les deux cierges sur
les candélabres,
qui sont
dorés et veloutés.
Qui créent une morbidité quand même extrêmement forte. Enfin, je suppose qu'il y a une sorte de communion d'âme avec le destin tragique de Schumann, quelque chose comme cela, non?
Je ne sais pas si Knopf a cherché aussi loin. Je pense qu'il a voulu témoigner d'un portrait de la grandeur d'âme de sa mère, qui est un personnage dominant, qui incarne la perfection chez Knopf. Et ce qui est très amusant avec ce tableau, c'est qu'en 1907, Knopf commandite à un critique d'art de l'époque une première monographie accompagnée d'un premier catalogue raisonné. Et avec beaucoup de soin, il va y mettre 4-5 photogravures tirées avec beaucoup de soin. Et il a repris certaines de ces photogravures qu'il a rehaussées. Et il y a notamment la photogravure rehaussée d'En écoutant du Schumann qui a cette particularité, il en a complètement changé la couleur. Donc c'est une œuvre beaucoup plus petite, et la dominante est devenue bleue. Le bleu est la couleur dominante de toute l'œuvre de Knopf. Et elle est devenue bleue, elle a donc quitté les habits du tableau réaliste des années 1880, très proche d'ailleurs de la musique russe de James Ensor, qui d'ailleurs a cru que c'était un plagiat et donc en a fait un scandale.
Il s'en est fâché, oui, bien sûr.
Ensor se fâche toujours, ça fait partie du personnage. Knopf n'y a pas répondu. Les deux tableaux n'ont d'ailleurs rien en commun. L'un est la consommation bourgeoise de la musique russe d'une femme au piano et de l'homme qui la contemple. L'autre, c'est un portrait moral de sa mère qui est une esthète pour Knopf, vis-à-vis de laquelle il éprouve un respect et un amour immense. Et le tableau est devenu entièrement bleu, c'est-à-dire que la musique de Schumann est devenue en fait le véhicule du rêve, ce qui est l'autre dominante et qui nous ramène à Hypnose.
Alors Hypnose, il y a pardon de vous entraîner de tableau en tableau comme ça, mais il y a un tableau qui a un titre très étrange. C'est une histoire de monde clos, de porte fermée. Qu'est-ce que c'est que ce tableau où une femme apparaît avec trois lys derrière une tête d'Hypnose, un bijou qui est suspendu, qui tombe du plafond. Qu'est-ce que c'est ce tableau?
Alors, Je ne suis pas tout à fait certain de celui que vous décrivez, mais ils font tous partie d'une même série. En 1890, pour la première fois, Knopf passe un séjour à Londres et il découvre au British Museum la tête d'Hypnose, un bronze attribué à l'époque à Scopas.
300 avant Jésus-Christ.
Oui, donc une tête grecque. Et il adore cette œuvre qui, par les accidents de l'histoire, a perdu une de ses deux ailes. Donc l'hypnose n'a qu'une seule aile. L'œuvre, et d'ailleurs le bronze de Scopas, est à l'exposition au Petit Palais. Il va immédiatement introduire cet élément dans un tableau qui lui aussi est en relation avec la culture britannique, puisqu'on est à Londres, et qui est en fait la reprise d'un poème de Georgina Rossetti, la sœur de Dante Gabriel Rossetti. Et le tableau est « I lock my door upon myself ». Je ferme ma porte sur moi-même. Donc, c'est un tableau qui exprime l'enfermement en soi. Il a un petit pendant qui est Who Shall Deliver Me, qui est une petite aquarelle et crayon de couleur que Knopf réalise quasiment simultanément. Et ce tableau est la première apparition d'hypnose. Alors, dans ce tableau, en fait, il y a un lien entre les hémérocales. L'hémérocale est une des plantes qui se trouve devant la grotte d'hypnose, qui sert à tous les traitements. Alors il y a la digitale, l'hémérocale, le pavot, donc toutes ces plantes dont les extraits vous permettent d'atteindre un autre monde.
C'est un pavot, non? L'hémérocale,
ce sont les fleurs qui se trouvent au premier plan et qui témoignent en fait d'états différents sans que ce soit les trois états de la vie. Sur la tête d'hypnose, il y a une fleur de pavot. De nouveau, c'est la même symbolique.
On retrouve chez Redon parfois.
C'est sortir de la réalité et s'évader. Et Knopf va réaliser un espace qui est un espace d'une totale ambiguïté. À droite, il y a une sorte de tableau qui fait un peu penser à un Böcklin avec une figure solitaire dans un paysage désolé. À gauche, il y a des éléments de boiserie et on ne se sent pas très bien quant à où on se trouve. Et alors, il y a surtout cette femme au premier plan, avec les yeux totalement délavés, rousse, qui est en fait l'expression de l'enfermement en soi, le repli sur soi. Alors, la thèse que je développe, mais je pense qu'il y a des arguments qui peuvent aller, elle est en fait accoudée à un piano. C'est le même thème qu'en écoutant du Schumann, à part qu'ici, le piano n'est plus explicite, on peut le deviner.
On devine simplement un velours noir,
mais on voit le début du capot du piano à gauche, on peut le deviner.
Ouais.
Et elle est là, et alors en dessous d'elle, il y a de nouveau une sorte de nappe bleue, d'un voile bleu, qui est en fait cette dimension de dérive onirique. Alors j'en veux comme démonstration que lorsque Knopf va décorer le salon de musique du Palais Stockley à Bruxelles, qui est le chef-d'œuvre de l'architecture autrichienne. C'est le hasard fait que ce soit à Bruxelles, puisque c'était le rêve d'Adolf Stockley, et que Klimt, lui, réalise la salle à manger. La salle à manger est blanche et or, et elle exprime le thème de l'amour avec l'arbre de vigne. La salle de musique est dominante bleue. Eh bien, la recluse, I lock my door upon myself, est un des éléments de décoration du salon musical, ce qui renvoie évidemment à cet univers de la musique. Et Hypnose va revenir 4 ans plus tard, dans un tableau qui s'appelle L'aile bleue. Et c'est très amusant parce que l'aile bleue reprend la même thème d'hypnose. C'est une sorte de vestale dans un espace abstrait. Elle tient devant elle de nouveau une sorte de fleur d'hémérocale qui renvoie à cette notion de rêve. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'en 1902, probablement fasciné par la lecture de Monsieur de Focas de Jean Lorrain, Jean Lorrain ayant éprouvé pour l'Antinous du Louvre une sorte de passion dévorante, eh bien Knopf va reprendre, il va enlever l'hypnose de Scopas et il va mettre la tête de l'Antinous à la place. Il va réactualiser en fait son œuvre en partant de Jean Lorrain.
Mais c'est une obsession névrotique, celle de Monsieur de Focas. C'est la peur de voir une lueur verte apparaître dans les yeux et qu'il fuit partout et qu'il inquiète. C'est un livre absolument extraordinaire.
Et dans Monsieur de Focas, Jean Lorrain rend hommage à Knopf, qui pour lui est le peintre des yeux.
Est-ce qu'ils ont en commun les uns et les autres Huysmans ou pas tellement?
Ils ont probablement, à rebours de Huysmans, ne serait-ce que pour la bibliothèque, l'amour des livres, la rareté, et surtout se retrancher du réel pour mieux observer le réel.
Alors je vous propose d'écouter un autre texte de Verhaeren, c'est dans le même plaquette, si je puis dire, et qui est celui où Verhaeren parle du symbolisme.
Définir le symbolisme, qui donc y réussirait? Au plus peut-on essayer d'éclaircir quelque peu le brouillard ambiant et encore avec la volonté de n'émettre que des idées personnelles. Aujourd'hui, on part de la chose vue, oui, sentie, tâtée, goûtée, pour en faire naître l'évocation et la somme par l'idée. Un poète regarde Paris fourmillant de lumière nocturne, émietté en une infinité de feux et colossal d'ombre et d'étendue. S'il en donne la vue directe, comme pourrait le faire Zola, c'est-à-dire en le décrivant dans ses rues, ses places, ses monuments, ses rampes de gaz, ses mers nocturnes d'encre, ses agitations fiévreuses sous les astres immobiles, il en présentera, certes, une sensation très artistique, mais rien ne sera moins symboliste. Si par contre, il en dresse pour l'esprit la vision indirecte, évocatoire, s'il prononce « une immense algèbre dont la clé est perdue », cette phrase réalisera, loin de toute description et de toute notation de fait, le Paris lumineux, ténébreux et formidable. Le symbole s'épure donc toujours, à travers une évocation, en idée. Il est un sublimé de perception et de sensation. Il n'est point démonstratif, mais suggestif. Il ruine toute contingence, tout fait, tout détail. Il est la plus haute expression d'art et la plus spiritualiste qui soit. À cette heure, il n'est qu'un vrai maître symboliste en France, Mallarmé. Avant Arthur Rimbaud, le plus étonnant génie dont le météore se soit égaré depuis 20 ans, où est-il? Existe-t-il encore? Stéphane Mallarmé, dans son après-midi d'un faune et surtout dans quelques-uns de ses récents poèmes, reste donc seul, car ni Verlaine ni Corbière ne se sont affirmés nettement et décisivement symbolistes. Émile Verhaeren, 1916.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons avec Michel Draguet, le commissaire de l'exposition Knopf, de ce très grand artiste symboliste. Et à cette occasion, nous écoutions à l'instant un texte de Verhaeren sur le symbolisme et l'influence que vous rappeliez d'ailleurs tout à l'heure de Mallarmé. Il y a une phrase qui vous a retenu, me semble-t-il, dans ce texte.
Oui, quand Verhaeren... Alors il faut peut-être situer ce texte. Verhaeren revenant de Paris où il a découvert Seurat... et où il a assisté à tout ce débat autour de la notion de symbolisme, Jean Moréas, Gustave Kahn et autres, veut faire une sorte de coup de force et va prendre le contre-pied, il va définir le symbolisme non pas à partir de la littérature, mais à partir d'une image, à partir d'un peintre. Et il évoque l'idée de la peinture de Knopf comme, c'est à lui qu'il pense, comme une immense algèbre dont la clé s'est perdue. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens qui vont visiter l'exposition Knopf, c'est de rentrer avec cette idée-là. Et en fait, ce sont des formules mathématiques qui se reprennent et qui se citent mutuellement, et nous en avons perdu le sens. À nous de construire ce sens. Alors la question, parce que ça renvoie aussi à la manière de lire le surréalisme, et Magritte en particulier, avons-nous la possibilité de créer un sens? Magritte nous dit oui, Knopf nous dit, ça dépend de votre qualité et de votre capacité. Pour vous donner un exemple, dans les salles du musée, il y a le tableau que nous avons décrit, hein, la recluse, I lock my door upon myself. Mais il y a un autre tableau, je ne donnerai pas le titre, comme ça les gens qui nous écouteront qu'à le chercher dans l'expo. Il y a un autre tableau où dans une bulle qui remonte le long d'un personnage, il y a le visage de la recluse. Ce qui est assez intéressant parce que ça nous met aussi dans une géographie où les deux tableaux sont l'un par rapport à l'autre, donc l'un manifestement plus haut que l'autre, puisque la bulle de la recluse remonte.
Donc c'est un petit peu comme dans les tableaux de Jérôme Bosch, hein. C'est une bulle qui fait penser à Jérôme Bosch.
C'est une bulle qui fait penser à Jérôme Bosch, à la bulle de verre de Maeterlinck, aux bubbles des pré-raphaélites anglais.
Et de Turner.
Et de Turner. Ouais. Et donc, et dans cette bulle, il y a des citations. Et donc, ce sont des équations qui viennent se recouper les unes les autres, mais nous sommes toujours confrontés à des choses que nous ne comprenons pas. Alors, c'est fascinant pour un historien d'art parce que ça nous rend intelligents. On a le sentiment d'aller devant vous en disant, mais je sais et je peux vous expliquer ce qu'est l'art ou les carrés. Déjà, le titre est bizarre, l'art ou les caresses.
Vous l'avez révélé, hein, vous ne deviez pas le dire.
Je ne devais pas le dire, mais j'ai toujours pas dit ce que c'était. Hein. Et en même temps, le tableau est offert comme une énigme. Les Viennois, quand ils découvrent Knopf, parlent des logogriffes de Knopf.
Mais c'est vrai qu'il y a une mise en turbulence d'assez peu de signes, parce que les mêmes signes reviennent toujours, et probablement les références aux poètes dans une sorte de ritualisation de l'acte artistique. Mmh. Et c'est une... À un moment donné, vous parlez dans votre livre, vous avez trouvé ça très intéressant, parce qu'il y a des portraits évidemment qui apparaissent, très souvent les mêmes personnages, ou des visages qui se ressemblent à tel point qu'on a l'impression qu'ils sont tous les doubles les uns des autres, parce qu'évidemment la question du double doit être, je suppose, très importante. Et vous dites, vous opposez l'idée de cette incarnation fragile qui crée un effet de présence et qui s'oppose à ce qu'ils sont pourtant aussi, qui sont des icônes. Il y a une opposition entre la présence et l'icône.
Ce qui est quelque chose qui partage l'œuvre de Knopf jusqu'au moment où, après la mort de sa mère, il va résolument vers le corps, la femme, la peau, la chair... et le désir. Et ce qui m'a frappé, alors, parce que c'est l'âge venant, c'est que le désir est beaucoup plus présent pour moi aujourd'hui dans l'œuvre de Knopf qu'il ne l'était au début. Et c'est une autre manière d'assembler ces tableaux où sont chaque fois des membres d'une phrase. Pour prendre un exemple, en 1883, fasciné par Flaubert, qui est aussi un des grands inspirateurs de cette... Knopf va réaliser un tableau inspiré de Gustave Moreau, qui est, d'après Flaubert, la tentation de Saint-Antoine. Et l'ermite est confrontée à l'Étaïr, dont on devine un saint très voluptueux. Elle est une sorte d'éclat de peinture à l'huile sur un fond de papier, mais c'est une confrontation frontale. 6 ans plus tard, pour rendre hommage à Émile Verhaer, qui a traversé une crise spirituelle, mais la crise est à la mode à l'époque, la crise spirituelle sur le modèle de Mallarmé, et il livre un tableau qui s'appelle Avec Verhaer un ange, qui est un grand pastel vertical noir et blanc, qui montre une sorte de chevalier androgyne, l'idée pure, casqué, avec armure, et qui domine de la main une sphinge qui se frotte à lui avec volupté. C'est vraiment une œuvre d'une inspiration néo-platonicienne caractéristique de l'époque. Et puis, 6 ans plus tard, Knopf réalise L'art ou les caresses, c'est-à-dire une très curieuse construction pour permettre de faire monter la sphinge au niveau du visage de l'Œdipe. Ils sont joue contre joue, de là la caresse. Et la fusion des deux, eh bien, renvoie d'une part à ce thème très littéraire, et Péladan a adoré ce thème, qui est l'androgyne, avec tout ce qu'il peut avoir de résonance culturelle, wagnérienne et autres, mais aussi à une aspiration à découvrir, je crois, le corps féminin, que Knopf a, à mon avis, découvert très tard.
On le ressent très fortement à partir de 106, c'est vrai, mais ce tableau est extraordinaire, parce que la sphinge et l'androgyne se ressemblent incroyablement. L'androgyne a... juste les seins légèrement argentés, j'ai l'impression.
Il a une pièce d'argenterie sur les tétons. Knopf aimait beaucoup les petites pièces très délicates d'argenterie avec des reflets bleus et des pierres précieuses.
Et au loin, dans le paysage, il y a 2 colonnes enchaînées,
oui,
l'une à l'autre.
Yakim et Boaz, les 2 colonnes du temple maçonnique. Et le paysage est un paysage de brouillère, de fossé. Donc c'est une manière aussi de ramener le réel tel qu'il l'a vécu vers ce mythe qui est le point de départ, et le mythe est la matrice du rêve.
C'est un tableau totalement troublant. Alors, il y a un nom que vous avez lâché à l'instant, il faut que vous nous en disiez plus. On connaît des représentations de lui, on connaît aussi son nom, et son nom complet, Péladan.
Joséphin Péladan, qui est... Quand je donne cours à l'université pour que les étudiants comprennent, je dis que c'est un peu le Bernard-Henri Lévy de l'époque. C'est-à-dire une sorte de...
C'est méchant pour Péladan.
C'est probablement méchant pour Péladan. Mais c'est une sorte de personnalité qui est prêt à tout pour qu'on parle de lui médiatiquement. Donc il va avoir des phases multiples. Il écrit, il se lance dans une série de romans, dont le premier va avoir beaucoup de succès, qui est Le Vice Suprême. Je crois qu'il a surtout eu un succès pour le titre. Alors Péladan est un artiste qui ne se relie pas, hein, donc ne cherchez pas non plus toujours de cohérence dans la structure narrative. Mais c'est un livre qui va avoir un impact considérable. Alors il y a une anecdote très amusante à ce niveau-là. Knopf a réalisé le portrait d'une grande chanteuse d'opéra qui était Rose Caron. Un portrait de scène, non, un portrait de ville, pardon, au même moment qu'il se lance dans ce dessin d'après Joséphin Péladan, Le Vice Suprême. Et il semble que, de manière un peu inconsciente, le visage de cette femme qui incarne Brunhilde sur scène, qui est un mythe incarné, chanteuse d'opéra wagnérienne, va venir se superposer au visage de Lehner Hades, c'est-à-dire le vice suprême. L'œuvre est exposée au Vint en 1885, et lorsque Rose Caron visite l'exposition, elle est choquée de se voir avec sa tête sur un corps nu et comme titre le vice suprême. Elle fait retourner le tableau, elle convoque Knopf et Octave Mose, l'organisateur du Salon des Vintes. Ils se rendent tous les deux sur place. Knopf ne discute pas, il prend le tableau, il casse le cadre avec sa canne, il déchire le dessin, il le jette aux pieds de la femme et il s'en va. C'était sans compter évidemment sur Péladan, qui lui a trouvé qu'on avait détruit un chef-d'œuvre, puisque c'est de lui quand même qu'on parlait. On avait détruit un chef-d'œuvre. Il s'en est suivi un vaste débat dans la presse qui touche notamment la manière dont Knopf travaille. Et ça, Knopf n'aimait absolument pas. Donc il est devenu beaucoup plus secret sur sa méthode de travail ensuite. Rose Caron a abandonné le portrait chez Knopf, elle l'a fait faire à Paris, il est aujourd'hui au musée Carnavalet. Et il y a eu à ce moment-là une sorte de lien entre Knopf et Péladan, qui a été, pour la première exposition de la Rose-Croix, un très grand succès. Et Knopf y a participé. Et
première exposition de la Rose-Croix qui avait lieu chez Durand-Ruel, c'est une expo très importante, avec des artistes de premier plan.
Des artistes de premier plan qui viennent quasiment de toute l'Europe. Péladan a bénéficié d'un mécène qui lui a permis d'avoir une exposition de grande ampleur. Et cette exposition, tout le monde s'y est précipité, tout le monde l'a visitée. Il n'y a pas eu énormément de ventes quand même, parce que c'est des œuvres quand même assez particulières. Il y a eu une exposition qui l'a reconstituée au Guggenheim à New York l'an dernier. Knopf y participe et il va devenir, face au refus de Gustave Moreau, de Burne-Jones, de Puvis de Chavannes, d'exposer avec Péladan, il va devenir l'artiste majeur de la Rose-Croix pendant un temps, et puis il va s'en écarter lorsque le succès va venir de milieux plus officiels, plus académiques, un peu plus sérieux aussi probablement pour Knopf, et notamment venant de l'Angleterre. Et à ce moment-là, la relation avec Péladan va se distendre, mais il va quand même réaliser plusieurs frontispices. Certains sont magnifiques, comme Ishtar, qui est une des œuvres les plus voluptueuses de l'œuvre de Knopf, mais là, la volupté, la sexualité, elle est autorisée parce qu'elle est un élément littéraire. Elle n'est pas assumée par Knopf lui-même. Mais c'est un pastel qui annonce les œuvres d'après 1906.
En fait, ce qui se passe, c'est que Péladan, qui est un personnage enthousiaste, qui est probablement un imposteur, mais absolument émouvant par sa passion, essaye de substituer au culte des dieux le culte de l'art. Je crois que c'est à peu près ça qui se passe. Et effectivement, il entraîne avec lui des grandes figures, dont des figures musicales comme Satie et des grands artistes comme Schwab et beaucoup d'autres. Écoutons ce qu'il dit.
Artiste, tu es prêtre. L'art est le grand mystère. Et lorsque ton effort aboutit au chef-d'œuvre, un rayon du divin descend comme sur un autel. Artiste, tu es roi. L'art est l'empire véritable. Lorsque ta main écrit une ligne parfaite, les chérubins eux-mêmes descendent s'y confondre comme dans un miroir. Artiste, tu es mage. L'art est le grand miracle et prouve notre immortalité. Joséphin Péladan.
Joséphin Péladan dit le tsar Péladan, parce qu'il aimait ce caractère assyrien, comme ça, il se donnait cette grande majesté. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous parlons du grand artiste symboliste Fernand Knopf. Merci Michel Draguet d'être avec nous et de continuer cette aventure. Et autour de Knopf, il y a des écrivains. Et parmi les écrivains, il y en a un dont vous avez parlé tout à l'heure, Rodenbach, mais avec lequel il y avait une amitié extrêmement profonde. C'était vraiment un frère, lui aussi.
Oh frère, c'est peut-être excessif connaissant Knopf. Il en avait qu'un, c'était Georges, il fonctionnait en bande, c'est un homme quand même très réservé. Ils ont des points communs, ils ont vécu une enfance à Bruges, ils ont le même... Alors chez Rodenbach, c'est un sens du pessimisme qui est hérité de Schopenhauer et de la lecture des philosophes allemands. Chez Knopf, c'est moins marqué, mais c'est certainement un culte de la mélancolie. Un culte du souvenir qui reflue vers un passé qui est forcément un moment de réalisation, qui est un moment de réalisation extrême. C'est peut-être la nuance avec Péladan. Chez Péladan, il y a une sorte de d'aspiration vers l'art à venir. L'avenir chez Knopf est dans le passé davantage. Et il y a d'avant beaucoup plus chez lui un ton de sentiment, de mélancolie, de reflux.
D'ailleurs, il y a un poète, Leroy, dont il était très ami et qui avait un titre très beau pour ses recueils de poèmes liés au passé.
Mon cœur pleure d'autrefois.
Oui. On pourrait, ça caractérise assez exactement le travail de Knopf.
Tout à fait, et qui lui aussi est brugeois. Donc il y a le même sentiment. N'oublions pas quand même que Bruges est vraiment une ville morte. Hein. C'est une ville qui a été victime de l'ensablement et donc elle a perdu son statut, elle a perdu sa puissance, elle s'est endormie. Et la photographie est en fait le relevé de cet endormissement. Et Knopf utilise les photographies pour réaliser Mon cœur pleure d'autrefois. Alors c'est très intéressant parce que Grégoire Leroy rêve d'un frontispice fait par Knopf. Il n'ose pas le lui demander. L'homme n'est pas des plus accessibles. Et donc il va le demander via Verhaer. Et grâce à la correspondance, on sait que Knopf travaille très, très, très lentement et qu'il est extrêmement minutieux et très vigilant de la qualité des impressions. Donc c'est un détail assez important. Et quand il va réaliser Mon cœur pleure d'autrefois, il reprend l'entrée du Béguinage à Bruges, qu'il va reprendre pour Rodenbach et qu'il va reprendre aussi pour ce roman extraordinaire qui est Bruges la morte.
Il y a quelque chose de très extraordinaire dans cette image qui va devenir un tableau aussi, qui est ce pont à trois arches avec un visage qui semble dont la face crée comme un écho dans l'eau, comme des cercles dans l'eau, trois cercles comme cela. Et on ne sait pas si c'est le reflet de ce miroir d'eau morte qui crée le visage ou si c'est le visage qui se reflète dans l'eau. C'est très, très extraordinaire comme inversion.
Oui, et ça introduit d'emblée le lien qu'il va y avoir entre le thème de Narcisse et le thème d'Ophélie qu'on va retrouver dans Bruges la morte avec le roman de Rodenbach qui lui aussi joue de ces métaphores qui sont des métaphores croisées. Et donc avec Rodenbach, il y a une très très grande proximité. Rodenbach demande à Knopf, donc Rodenbach publie en roman feuilleton en juin 1892 Bruges la morte dans le Figaro et... Peu de temps après, ça va sortir en roman chez Flammarion. Et il y a ce travail extraordinaire d'introduction des photos pour donner un volume suffisant et du frontispice réalisé par Knopf à ce moment-là. Et on est probablement là dans une véritable rencontre d'univers qui se répondent et qui, autour du thème de Bruges la morte, débouche chez Knopf ensuite sur une série d'œuvres qu'il va réaliser entre 1902 et 1904. Et une des dernières œuvres qu'il réalise sur Bruges est totalement atypique parce que généralement, il ne change rien à la photographie, il va lui donner simplement une résonance par le pastel, par les tons, c'est d'une subtilité extrême, c'est d'une sensualité extrême dans le traitement, et puis il y a la ville abandonnée, qui bascule du symbolisme dans le surréalisme, puisqu'il retire une rangée de maisons et on voit la mer qui se retire, et on a une opposition entre ces petits pavés qui frise d'ailleurs une sorte d'hystérie dans le détail. La statue de Memling qui, elle, a déserté son socle, elle est partie, et Bruges est devenue une ville surréaliste.
Oui, Bruges est surréaliste parce qu'elle va être... On a l'impression que c'est une vision apocalyptique, d'une certaine façon. La mer monte, c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Elle va envahir peu à peu Bruges. Le grand personnage Memling, le grand artiste du XVe siècle qu'admirait Knopf, a disparu de son socle. L'histoire, l'art est balayé peu à peu, et il y a une grande mélancolie.
Je voudrais juste... Mais je vous interromps parce que c'est une vision personnelle. Parce qu'en réalité, vous pouvez aussi penser que la mer s'est retirée de Bruges. La mort de Bruges, c'est l'ensablement et le départ de la mer. Donc la mer, c'est une ville abandonnée.
C'est parce que je pensais qu'elle reviendrait.
Elle va peut-être venir. Elle reviendra certainement, partie comme c'est.
Vous avez lâché une chose sur laquelle on n'a pas eu le temps de parler. Et pourtant, c'est crucial. Il y a deux choses cruciales dont on n'a pas parlé. Il faut absolument qu'on arrive en quelques mots, à parler des choses fondamentales qui sont la relation à sa sœur, qui est un modèle permanent de son travail, et la photographie.
Alors,
Elle le fait poser pour la photographie.
Oui, oui. Marguerite, après l'épisode Rose Caron, Marguerite est devenue le témoin privilégié des compositions de Knopf. Et donc Knopf s'est équipé d'un appareil photographique. Il le fait aussi pour ses portraits. Il déteste les séances de pose et avoir des êtres humains devant lui quand il travaille. Donc il part de la photographie et Marguerite va être son complice. Elle va prendre des poses. C'est comme ça que nous savons que Memories est une succession de 6 photos. Nous n'avons pas la 7e. Et il est très possible qu'il a dessiné la 7e de mémoire, ce qui explique le titre.
C'est un tableau avec 5-6 fois le même personnage, hein, oui. 7 fois le même personnage.
Elle est habillée de manière différente, chaque fois des tenues qui sont des tenues de joueuses de tennis, dans un paysage qui, de nouveau, est une sorte de liant psychique. C'est très, très proustien comme vision, comme tableau. Et elle va être sa véritable complice jusqu'à son mariage, puisqu'elle va vivre à Liège. Et après, alors on s'est beaucoup focalisé sur ce lien pour y voir une sorte d'amour sororal, mais après Marguerite, Knopf va, je dirais, s'équiper de 3 jeunes modèles britanniques, les sœurs Mackay, qui vont, elles aussi, poser pour Knopf, pour différentes compositions. Alors, toutes ces femmes ont un visage qui se ressemble grosso modo, mais qui est toujours transformé par Knopf.
Il les transforme beaucoup, il les rend plus grecs d'une certaine façon.
Il les rend plus grecs, il y a la mâchoire carrée qui explique d'ailleurs qu'il ait aimé le bronze de Scopas, l'hypnose, qui a aussi cette mâchoire carrée. C'est vrai, ouais. Et donc, il y a ce lien. Et alors, la photographie, alors là, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. D'abord parce qu'il considère que la photographie est simplement un outil apporté à la création. Donc, il reprend en fait la théorie du dessin photogénique. C'est pour ça que dans l'exposition, on a introduit quelques œuvres contemporaines. Il y a Hans Hoppe de Beek avec son pan pour faire allusion à la maison de Knopf où il y avait un pan blanc. Et puis, il y a une photo de Sugimoto, parce que j'ai exposé Sugimoto à Bruxelles. Il ne connaissait pas Knopf, mais il a fait cette grande série de photos sur The Pencil of Nature, qui sont des négatives de Fox Talbot. Donc, par définition, il est très proche de l'univers de Knopf. Il a découvert Knopf en exposant chez nous. Et j'ai voulu le remettre dans l'exposition avec une de ses œuvres qui a aussi une très très belle résonance, à la fois Whistler, à la fois Knopf. Et cette photographie est une sorte de souffle sur une vitre. Et pour Knopf, le dessin, la photographie, c'est un dessin photogénique, un dessin fait par la nature, sans recours à la main. Mais ce qui est très intéressant chez lui, c'est que ensuite, il reprend la photographie pour photographier ses œuvres et les recolorer. Et il y a certaines de ses œuvres ont plus de couleurs sur la photo rehaussée que sur le tableau original.
C'est extraordinaire parce que donc la photographie deux fois, elle est là comme modèle avec il fait poser, il compose, etc. Et puis elle est là reprenant l'œuvre, redevenant elle-même une œuvre extraordinaire, comme Richter le fera d'ailleurs, hein, oui. Pour certains de ses tableaux.
C'est la logique de Magritte, hein. À partir du moment où vous avez une idée poétique, pourquoi enfermer cette idée poétique dans un unicum que seuls les plus fortunés pourront se payer? Et là, vous allez avoir la photo qui véhicule l'idée, et puis des degrés de rehaut jusqu'à des rehauts supérieurs à l'œuvre originale, ou qui changent, comme en écoutant du Schumann, le tableau devient bleu alors qu'il était roux, rouge et ocre.
Alors on parle de Knopf et ses tableaux, de Knopf et la photographie, on pourrait parler de Knopf et la sculpture, parce que là aussi il réalise beaucoup d'ouvrages. Knopf et l'architecture, Knopf et l'œuvre d'art totale, c'est ça la question?
C'est une forme d'œuvre d'art totale qui a d'ailleurs trouvé à s'exprimer par sa collaboration avec le Théâtre Royal de la Monnaie pour plusieurs représentations jusqu'en 1914. Oui, c'est un artiste qui a voulu explorer toutes les voies, parce que de nouveau c'est cette sorte d'algèbre dont la clé s'est perdue, et on la retrouve par le son, par la voix, par le texte, par l'image. C'est ce qui rend cet artiste fascinant et qui fait que il révèle toujours des facettes nouvelles.
Merci infiniment Michel Draguet, merci pour cette exposition formidable.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Michel Draguet à l'occasion de l'exposition du Petit Palais Fernand Knopf, le maître de l'énigme. Lecture des textes, Andréa Schiffer. Prise de son, Philippe Mercher. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Bon après-midi sur France Culture. Bon après-midi Michel Draguet. À bientôt.